VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. En Somalie, les députés et les sénateurs choisissent demain mercredi le président de ce pays, miné par les attaques des islamistes Shabab et menacé par la famine au terme d'un processus électoral entaché de nombreuses accusations de corruption et de trucage. Idrissa Seydoudia.
23 candidats au total, dont le président sortant, Hassan Sheikh Mohamud, briguent le poste de chef de l'État. Le vainqueur sera désigné par 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus. Prévue en août, l'élection du président a été plusieurs fois repoussée. Elle doit ponctuer un processus électoral construit autour du système clanique régissant la politique de la Somalie, privée de véritable État central depuis la chute de Siad Barre en 1991. Dans un rapport publié mardi, l'ONG anticorruption somalienne, Markati, affirme que ce processus entaché de nombreuses accusations de trucage et de marchandage est défiguré par la corruption. Le suffrage universel avait été initialement promis aux Somaliens, mais cet engagement a été abandonné en 2015 en raison de luttes intestines et de tergiversations politiques combinées à une insécurité chronique due principalement aux islamistes Shabab affiliés à Al-Qaïda qui contrôlent de larges zones rurales et frappent régulièrement Mogadiscio, la capitale. Il s'agit cependant d'une avancée démocratique par rapport aux élections de 2012 où seulement 135 notables avait désigné l'ensemble des députés. L'instauration du suffrage universel est désormais planifiée pour la prochaine élection en 2020.
Merci Idrissa. Les pays du G5 Sahel ont annoncé lundi à Bamako vouloir réaliser leur projet de force destiné à combattre les groupes djihadistes, utilisant notamment le Mali comme base de repli. Ce sommet des 5 chefs d'État à Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad intervient moins de 3 semaines après l'attentat suicide du 18 janvier qui a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord du Mali. À Bamako, retrouvons notre correspondant Kassim Traoré.
Après Nouakchott, N'Djamena, c'est Bamako qui a abrité le 3e sommet extraordinaire du G5 Sahel. Le président malien préconise 3 objectifs pour venir à bout des terroristes. Ibrahim Boubacar Keïta.
Le premier, c'est de procéder à une analyse objective de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace commun. Le second, c'est l'état des lieux de la mise en œuvre des promesses de contribution faites par nos partenaires, les opérations militaires transfrontalières et la montée en puissance du Collège de défense du Sahel. Enfin, le troisième objectif, identifier les pistes concrètes d'action des semaines et des mois à venir en vue de promouvoir la paix et le développement durable.
Pour le président tchadien, l'heure est grave. Il faut agir vite et plus efficacement parce que le phénomène s'enracine de façon dangereuse dans le Sahel. Idriss Déby, président du Tchad.
Nous devons nous donner les moyens et les ressources nécessaires pour livrer une guerre sans merci contre ces obscurantistes qui veulent nous ramener au Moyen-Âge. Aussi longtemps que le chaos libyen durera, la sécurité dans le Sahel et le Sahara sera toujours mise à rude. Je nous invite à nous investir, comme nous le faisons déjà si bien, pour aider les frères libyens dans le processus de réconciliation et de recherche de la paix.
L'attaque du 18 janvier 2017 contre le MOC a été condamné par les présidents du G5 Sahel qui ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Najim El-Hajj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel.
Abordant le processus de paix au Mali, les chefs d'État ont salué les efforts accomplis par le gouvernement du Mali sous le leadership de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, dans la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Les chefs d'État ont demandé aux groupes armés signataires du dit accord de faire preuve de bonne foi, de sincérité et de bonne volonté dans leurs engagements.
Dans le communiqué final du sommet, les chefs d'État ont décidé la mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel. Najim El-Hajj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel.
La mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel, conformément à l'option 1 à court terme et l'option 2 à moyen et long terme, en prenant en compte les facteurs suivants. Un mandat clair de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies. Un financement soutenu de la force conjointe. Des règles d'engagement précis en vue de combattre le terrorisme, le trafic de drogue et d'immigration clandestine. Deuxièmement, la suppression sans délai des visas pour tous les types de passeports, conformément aux dispositions légales en vigueur dans chaque pays. Troisièmement, Troisièmement, l'approfondissement de la réflexion sur les modalités de création d'un fonds spécial de financement des activités de défense et de sécurité dans les États membres du G5 Sahel.
Les chefs d'État ont aussi annoncé la création de la compagnie de l'organisation dénommée Air Sahel, qui dispose déjà de ses premiers appareils. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été désigné nouveau président en exercice de l'organisation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Malawi et la Tanzanie ont accepté de reprendre les négociations pour résoudre un vieux différend frontalier qui les oppose au sujet du lac Malawi, une zone potentiellement riche en pétrole, a annoncé aujourd'hui Peter Mutharika, le président malawite. Les deux pays s'opposent depuis plus de 50 ans sur le tracé de la frontière sur le lac de près de 30 000 km² où chacun espère découvrir des réserves de pétrole et de gaz. Le conflit avait ressurgi en 2011 lorsque le Malawi avait attribué une licence de prospection de pétrole à la firme britannique Sandstream Petroleum dans une zone proche de la Tanzanie au nord-est du lac. De nombreux quartiers de Kinshasa en RDC étaient inondés ce mardi à la suite d'une brusque montée des eaux provoquée par un violent orage faisant craindre des pertes en vies humaines. L'orage a commencé peu avant le lever du jour. Selon des habitants joints par l'AFP, les rivières de Makelele et Kalamu dans des quartiers du centre de la capitale ont débordé. Nous attendons un rapport global parce qu'il continue de pleuvoir abondamment, a déclaré Thérèse Olenga, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. À la fin de l'année 2015, plusieurs dizaines de personnes étaient mortes déjà dans une succession de pluies violentes sur la capitale congolaise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le régime syrien est accusé par Amnesty International d'avoir pendu dans le secret le plus total quelque 13 000 personnes en 5 ans dans une prison de près de Damas. Deux semaines avant les pourparlers de paix prévus à Genève, ces personnes exécutées entre 2011 et 2015 dans la tristement célèbre prison de Sédnaïa étaient en majorité des civils qui s'opposaient au régime de Bachar al-Assad, indique l'ONG dans son rapport. Amnesty dénonce une politique d'extermination et estime que ces exécutions constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le gouvernement syrien n'a pas réagi dans l'immédiat à ce rapport, selon l'AFP. La justice française a ordonné, elle, le renvoi en procès de l'ex-président de droite Nicolas Sarkozy et de 13 autres protagonistes dans l'enquête sur ses dépenses de campagne pour la présidentielle de 2012. La justice reproche à M. Sarkozy, qui a pris sa retraite politique en novembre après son échec à la primaire de droite pour la présidentielle cette année, d'avoir dépassé sciemment le plafond des dépenses fixé à 22,5 millions d'euros. Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'Union européenne, va se rendre en fin de semaine à Washington afin d'entamer une séquence d'intenses échanges avec l'administration Trump qui se poursuivra ensuite à la mi-février en Europe, a-t-elle annoncé hier lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Il s'agira en priorité de trouver des terrains d'entente, des sujets sur lesquels coopérer, a précisé la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères en soulignant que des thèmes comme le changement climatique ou un fonctionnement efficace de l'ONU étaient importants pour l'Europe. La Cour d'appel de San Francisco va entendre dans l'après-midi aujourd'hui les partisans et adversaires du décret de Donald Trump interdisant l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Les États de Washington et du Minnesota, à l'origine de la plainte qui a débouché sur un ordre de suspension temporaire de l'application du décret rendu par un juge fédéral de Seattle et l'administration Trump, qui a fait appel de cette décision, ont fourni des documents à la Cour dans la journée de lundi, c'était donc hier. Et puis pour terminer, le nouveau président américain Donald Trump révèle le vrai visage des États-Unis, a déclaré aujourd'hui le guide suprême iranien l'Ayatollah Ali Khamenei lors d'un discours devant des militaires à Téhéran. Nous remercions ce monsieur, Donald Trump, parce qu'il nous a facilité la tâche en montrant le vrai visage des États-Unis. Ce que nous disions depuis plus de 30 ans à propos de la corruption politique, économique, morale et sociale au sein du pouvoir américain, ce monsieur l'a mis à nu pendant la campagne électorale et après, fin de citation, a déclaré donc l'Ayatollah Ali Khamenei. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.